Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Le podcast qui décode le stress et ses sources dans l'entreprise. Chaque épisode est une opportunité de dire stop à la charge mentale, une nécessité pour l'équilibre de chacun et la santé de tous. Je suis Magali Siméon, entrepreneure, experte du futur du travail et maman de 3 enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Quelle valeur donnons-nous au H de ressources humaines? Peut-être pas suffisamment ou peut-être pas vraiment. Mylène, aujourd'hui, va nous raconter ce que c'est que l'épuisement professionnel quand on l'a vécu. Et comment, en mettant plus de H de son point de vue, on obtient aussi plus de performance. Et c'est également ma conviction. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Mylène, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs ?
Alors, je suis Mylène, je travaille en ressources humaines depuis 2006, donc j'ai fait mes études en ressources humaines, et puis j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, dans plusieurs entreprises. Donc j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, donc le rôle de maman aussi, en plus du métier de RH.
Très bien. Et Mylène, je crois qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation alors que je ne pourrais pas qualifier d'un peu particulière, parce que malheureusement, visiblement, elle se répand dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Oui, alors du coup, moi, je suis actuellement en arrêt par rapport à des souffrances liées au travail. Et comme beaucoup de gens, effectivement, j'ai pu le voir dans plusieurs entreprises où j'ai travaillé, les salariés sont souvent en souffrance. Donc en tant qu'RH, on absorbe finalement cette charge émotionnelle des autres salariés aussi. Et puis, on est finalement, en tant qu'RH, un peu la soupape pour tout le monde, en fait. Ce qui n'est pas évident, quand on est notamment hypersensible comme moi. Donc, ce qu'on m'a reproché, finalement, parfois, d'être hypersensible. Alors que pour moi, ça reste une force, justement, pour avoir l'empathie et comprendre les salariés qui sont en souffrance et alerter la direction quand c'est nécessaire. Pour mon cas, j'ai alerté aussi sur une charge de travail. Voilà, j'aime avoir beaucoup de travail aussi. Donc, j'ai forcément ma part, on va dire, de responsabilité. J'ai eu une période de culpabilisation. Après, on m'a amenée là où j'en suis, parce que c'est pas si simple que ça dans le monde de l'entreprise. J'en veux à personne aujourd'hui. Maintenant, je me reconstruis. Je suis en phase de guérison, si on peut dire. Par contre, j'ai atteint un point de non-retour par rapport à la structure où je travaillais. Et après, il faut changer, en fait. Donc, j'ai déjà vécu un peu des situations compliquées, avec des incompréhensions de la direction dans une autre structure. Enfin, voilà, toutes les structures en RH, ça reste un métier compliqué au niveau de la charge mentale. Et il faut savoir, à un moment donné, renoncer. J'ai réutilisé ces mots-là qu'on a utilisés pour moi quand j'ai dit que j'avais trop de travail, parfois. Après, souvent, et j'en veux pas aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ou même dans les entreprises qui peuvent répondre ça, il faut renoncer à certains projets pour prioriser. Ce que je comprends, mais c'est pas si simple quand on a la tête dans le guidon, quand on a des attentes très fortes des managers, des dirigeants multiples ou multisites, parce que ils attendent beaucoup aussi de la fonction RH. Et finalement, quand on reçoit des appels, moi je me fais toujours une obligation de réponse en fait, pour ne pas laisser les gens seuls, les managers seuls, dans les conflits qu'ils peuvent avoir avec les salariés, dans les difficultés qu'ils peuvent avoir sur les ressources humaines, parce que ça prend une grande part aujourd'hui de leur métier. Donc j'essaie de transmettre pour que les gens soient les plus autonomes possibles, mais ce que je constate aussi, c'est que les dirigeants n'ont pas non plus les clés pour ne pas mener au burn-out.
Vous avez commencé par dire « j'aime beaucoup travailler ». Après, vous m'avez dit « j'ai essayé d'alerter » et il y a une phase où on m'a culpabilisée. C'est comme ça que vous voyez un peu le déroulement, c'est-à-dire finalement d'essayer d'appeler à l'aide et qu'on vous en remette juste une charge supplémentaire sur les épaules en vous disant « vous n'avez qu'à prioriser ». C'est à vous de savoir vous organiser, vous devez apprendre à dire non. C'est comme ça que ça s'est passé ?
Alors, ça s'est passé dans une de mes expériences. Je partage un peu tout mon parcours.
Très bien, très bien.
Dans une de mes expériences, c'est ce qu'on m'a répondu. Alors, pas dans la dernière, parce que ça, c'est il y a quelques années. On m'a répondu, va falloir vous relever les manches. Alors que, je ne pouvais pas donner plus. Je ne pouvais pas. Je suis même allée en formation gestion du temps, où même la formatrice m'a dit, c'est pas un problème de gestion du temps. C'est un problème de charge réelle. Parce qu'il y a la charge réelle de travail et il y a aussi la charge qu'on s'impose mentale. Étant hypersensible, il y a un cerveau voilà, qui mouline beaucoup. Après, la culpabilisation, je pense que c'est pas si clair que ça, en fait. C'est insidieux. Parce que moi, je me suis mise à culpabiliser, mais d'autres salariés qui sont dans des cas similaires vont se culpabiliser par rapport à une situation. Parce qu'on est dans une société qui culpabilise les fragilités, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt les vulnérabilités à un instant donné, où d'autres vont pouvoir éventuellement profiter de ce moment de vulnérabilité pour mettre la tête sous l'eau à quelqu'un qui essaie de reprendre son air, en fait. C'est un peu l'image que j'ai. C'est dur, c'est brutal, et de le vivre moi-même, ces souffrances-là au travail, je l'ai vécu, je veux plus vivre, maintenant je sais aussi où sont mes limites. J'en retire toujours du positif, alors voilà, dans les épreuves on retire toujours du positif, les gens ne sont pas toujours coupables, pour moi c'est une responsabilité partagée d'en arriver à ces niveaux-là. Ce que je veux exprimer, c'est que moi j'ai peut-être pas eu les bons mots non plus, comme des salariés n'ont pas toujours les mots pour expliquer ce qu'ils ressentent, et que c'est mal perçu en entreprise de dire « j'y arrive pas, je suis à bout, je m'en sors plus », voilà. Et on arrive au point de craquage, en fait. Donc c'est la corde, on tire. Et quand on dit « bah voilà, mon équilibre pro-perso est plutôt à 5 sur 10 », et que ben voilà, on répond juste « bah oui, mais faut renoncer parfois, faut rééquilibrer », bah c'est pas si simple, en fait, quand on est sur la fonction, quand on est la tête dans le guidon, avec des pressions multiples de part et d'autre, quand on veut les écouter, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à mettre de côté, à faire comme s'ils n'entendaient rien, ce qui n'est pas mon cas. Je travaille aussi avec passion, c'est peut-être les écueils aussi de ça, mais ce qui me permet aussi de comprendre les salariés, d'avoir leur confiance, de pouvoir les écouter activement. On parle beaucoup d'écoute active, mais finalement, elle est peu pratiquée, l'écoute active. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de contacts avec d'anciens salariés, avec des collègues aussi. Je parle de collègues parce que pour moi, peu importe le statut, on est tous des collègues, en fait. Hein, donc ouais. On est tous des êtres humains. Et c'est remettre l'humain au centre du débat, en fait. Alors que ce mot, parfois, il n'est pas accepté par des dirigeants parce qu'on parle d'humain à tort et à travers. Moi, je le vis, l'humain, dans mon métier. Je suis RH, mais je suis H avant d'être R, en fait.
Mais vous avez dit quelque chose sur lequel je veux insister parce que je partage complètement ce point-là. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, la première injonction, c'est « sois fort ».
C'est ça, exactement.
Vraiment. Et si on ne l'est pas… si on ne l'est pas, c'est qu'on est faible. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion entre la dureté. Oui. Parce que pour moi, l'injonction du « sois fort » est une forme de dureté. C'est-à-dire, je ne fais pas attention à mes émotions. Et on considère que ceux qui ne sont pas comme ça seraient faibles.
Oui.
Alors qu'il y a beaucoup de puissance dans le fait d'être capable d'accueillir ses émotions, de les reconnaître, de mettre un nom dessus. Il y a beaucoup de puissance et c'est un vrai sujet de santé mentale. C'est-à-dire que
c'est ça.
Le « sois fort » à tout prix où je mets mon armure, le risque, c'est que quand j'enlève l'armure, je m'écroule aussi.
Et c'est exactement ça.
On est d'accord.
Surtout, surtout quand on a des émotions qui arrivent et qu'à force, on les éteint de plus en plus. Quand ça sort, c'est catastrophique, en fait. Hein. Donc, cette émotion-là, elle est salvatrice en plus. Alors, effectivement, c'est une injonction qui n'est pas assumée non plus. Hein.
Pas
du soi fort. Par contre, quand il y a des larmes qui coulent, on va dire « elle est trop sensible, il est trop sensible, de toute façon, il a des problèmes perso ». Ça, je l'ai entendu pour des salariés aussi dans mes expériences. « Non, mais de toute façon, ce n'est pas le travail, il a des problèmes perso. Puis de toute façon, il y a un problème de compétence, etc. » Donc, c'est se trouver des excuses. Alors oui, parfois, ce n'est pas que le travail, il y a tout un contexte qui fait qu'on en arrive à certains points de mon retour. Mais c'est pas en culpabilisant les gens, en essayant de pas considérer les gens. Finalement, c'est un manque de considération, que ça soit perso ou pro, à la limite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le bien-être vraiment du salarié et de la personne. Même si ça touche le perso, et la personne n'est forcément pas bien au travail. Donc si elle n'est pas bien au travail, il y a aussi une responsabilité de nous, RH, de nous, employeurs, de dire pourquoi ça ne va pas, de comprendre les causes et de pouvoir montrer qu'on est là aussi en tant qu'être humain au-delà de l'entreprise telle qu'elle est, économique, etc. Mais aujourd'hui, on parle de QVCT, de bien-être au travail. Moi, ça me fait sourire parce que c'est des choses qui me passionnent, mais en même temps, j'ai l'impression que parfois, c'est comme du greenwashing, en fait. Hein. On affiche des choses et derrière, c'est…
C'est le baby-foot.
Ça, j'ai pu connaître aussi par le passé. Non, mais avec un baby-foot, ça ira.
Alors, vous êtes RH. Vous avez connu aussi ce qu'est l'épuisement professionnel et quand on va trop loin et au-delà de ses forces. Voilà. Si vous avez une baguette magique, les trois actions dont vous considérez que leur mise en place serait vraiment le témoignage et la marque d'une volonté authentique de prévenir ces risques de craquage en entreprise. Ça serait quoi ces trois actions ?
Qu'il faut voir les gens en entretien, enfin les écouter vraiment, les observer, les écouter.
D'accord.
Il ne pas prendre la parole, la place de parole en fait. Il faut la laisser libre aux salariés qui ne se sentent pas jugés, qui se sentent libres d'avoir des moments de moins bien. Et pas que ce soit que dans le discours, que ce soit vraiment réel. Et qu'on voilà, on se contente pas juste de dire bah, « va voir le médecin, va voir le psy, etc. » Mais qu'il y ait vraiment un espace d'écoute et un espace où l'entreprise va pouvoir être flexible à un moment donné, de dire bah, « ok, là ça ne va pas, je comprends ». On va adapter, on va faire en sorte que ça aille mieux ensemble, que les gens ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus. Je crois vraiment, réellement, que les gens peuvent être plus performants quand ils arrivent à équilibrer entre la vie pro, la vie perso, la charge mentale perso, la charge mentale professionnelle, de comprendre ce que les gens ont dans leur tête et d'écouter cette souffrance-là qui est parfois silencieuse. Alors d'écouter le silence, c'est important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans des milieux, alors moi j'ai beaucoup travaillé dans des milieux très masculins, où du coup on apprend dans l'éducation, sois fort, pleure pas, sois fort. Surtout chez les garçons, chez les hommes, on a beaucoup éduqué comme ça, encore plus que chez les femmes. Et du coup je trouve qu'on les voit ces silences-là, on les voit les gens qui ont été retirés, on les voit, après on les voit si on veut les voir.
Mais finalement, alors, pour qu'il y ait dans l'entreprise des personnes qui soient en capacité d'observer, d'écouter avec cette écoute active dont vous parliez tout à l'heure, ça veut dire qu'en amont, l'entreprise a fait un programme de formation.
Alors, il y a des diagnostics QVCT, par exemple, qui existent pour mesurer déjà où on en est, avec des questionnaires qui restent anonymes, qui sont gérés par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, ce qui permet vraiment de libérer, je trouve, la parole. Mais il faut expliquer toute cette démarche-là pour savoir ce qui est les meilleures réponses à mettre en place. Et pour savoir les meilleures réponses, c'est ni la RH ni le dirigeant qui va savoir tout seul. C'est un ensemble, c'est l'ensemble des collaborateurs qui pourra répondre à leurs propres besoins, en fait. Parce qu'on peut très bien trouver une réponse qui ne sera pas la bonne, en pensant bien faire.
Bien sûr, en faisant tout seul dans son coin, oui, bien sûr.
Souvent, les entreprises veulent bien faire, mais ça ne marche pas. C'est parce qu'il faut une réponse, ce n'est pas forcément la même pour chaque entreprise. Elle doit être adaptée aux besoins des collaborateurs. Et même dans une même entreprise, ça ne va pas forcément être la même réponse d'une personne à l'autre.
Mais ça veut dire qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus personnalisé. Alors, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'entreprise de 2024 doit être capable de se dire j'ai des salariés qui ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres, mais qui sont pas moins performants ou de plus d'écoute. J'ai des salariés qui marchent à la compétition et qui ont besoin de challenge. Est-ce que une entreprise et ses fonctions RH peuvent travailler le management de cette façon-là ?
Moi, je crois qu'on peut accompagner les managers à manager autrement, en fait. D'accord. Parce que les managers aujourd'hui fonctionnent en résultat économique. Il ne faut pas se cacher qu'une entreprise elle est là pour gagner de l'argent.
Oui.
Donc déjà, il faut qu'elle gagne de l'argent pour pouvoir se consacrer à des choses où ça va être bienveillant, dans le bien-être, etc. Il faut quand même viser la performance. Mais pour moi, les gens restent plus performants quand ils se sentent considérés, soutenus, écoutés. Les managers sont souvent aussi un peu en panique. Si je puis utiliser ce mot-là, quand ils ont une difficulté relationnelle avec un salarié, quand il y a un salarié qui ne fait pas le travail, ils ne savent pas comment faire, donc souvent ils se tournent vers les RH, ou quand un salarié ne va pas bien, qu'il alerte son manager, que c'est va voir les RH, et parce qu'en fait on ne sait pas où mettre les problématiques, donc on envoie tout le monde vers les RH. Moi, je n'ai pas de baguette magique personnellement, hein. Donc l'écoute permet d'apporter beaucoup de compréhension des sujets. Ce qu'on m'a dit, moi, en tant qu'RH, c'est que je savais écouter et remonter les infos, synthétiser et accompagner. Le mot accompagnement, pour moi, il est très important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on demande à un RH.
Mais finalement, alors, ce que j'entends, c'est que les managers, aujourd'hui, auraient besoin d'être formés sur ce qu'on appelle les soft skills.
Oui.
C'est-à-dire la capacité d'écouter, la capacité de comprendre avec une dimension d'empathie. Et aujourd'hui, votre constat de RH dans les entreprises où vous êtes passé, c'est que ce n'est pas ça qu'on leur apprend, ça ne fait pas partie des programmes de formation ?
Alors, il y a des formations, mais il y a aussi des personnalités. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'empathie du tout. Et souvent, c'est des profils qui sont souvent dans du pouvoir, donc des managers, des dirigeants, qui ne sont pas dans ce côté empathique. Donc, ce n'est pas naturel. Comme c'est pas naturel, au-delà d'une formation théorique, c'est de l'entraînement, mais ça va leur demander beaucoup plus d'énergie et d'effort. Donc, c'est eux, après, qui vont être en personne à risque.
Ouais. Et, mais est-ce que, parce que finalement, tout le monde n'a pas besoin d'empathie, puisque...
Non, tout à fait.
On est d'accord, on est dans des sociétés où le soi fort est une injonction importante, donc ça veut dire que, c'est pour ça que j'insiste, c'est-à-dire que moi quand je vous écoute, je prends conscience que finalement, l'entreprise va devoir apprendre à avoir des managements différenciés, plus différenciés, oui. En fonction des profils en fait, c'est-à-dire que si on veut que les gens soient performants et productifs, ce qui est l'objectif d'une entreprise pour sa rentabilité, le manager doit se poser la question de quel est le levier qu'il a d'action pour la personne en face de lui, pour la rendre plus performante et plus productive. Et avec une intention qui reste une intention d'authenticité et non pas de manipulation. C'est-à-dire que si je donne un exemple, j'ai deux personnes dans mon équipe, il y en a peut-être une, elle va réagir au challenge, au... T'as fait ça l'année dernière, mais ton voisin, il a fait tant, et donc ça serait bien que tu fasses plus, et ça va l'exciter, il va trouver ça génial, et il va repartir gonflé. Alors que si on lui fait ce qu'il lui va appeler la calinothérapie, il va sortir en disant, mais c'est bon, on est tous les bisounours. C'est ça. Et à côté de ça, on peut en avoir une autre personne qui a moins confiance en elle, et à qui on doit pouvoir dire, bah, l'année dernière, tu étais à 90% de tes résultats, c'est bien, voilà, on sait que ça t'a demandé un effort, et donc, on va t'accompagner sur une formation particulière pour que cette année, tu puisses atteindre les 100%. Et ça, c'est au manager de savoir à qui il s'adresse et comment il le dit. C'est beaucoup demandé à un manager, en fait. Surtout qu'on ne lui a jamais demandé ça jusqu'ici.
Bah, c'est ça. Mais du coup, ça nécessite aussi de détecter les profils qui correspondent au manager en recrutement. Parce que finalement, manager, il peut créer son équipe en fonction de lui. Et de bien calibrer le besoin. Après, il y a des managers qui arrivent dans une équipe, donc c'est comment les accompagner. C'est ce que j'ai pu faire dans mon métier. C'est moi voir les gens en entretien et leur donner un peu une synthèse de dire attention, là voilà, telle personne, il y a telle alerte. Enfin, je trouve que le rôle du RH, il peut être là aussi. Et moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est en même temps, c'est là où on me dit que j'ai des qualités aussi dans l'accompagnement des managers pour leur faire prendre conscience de la dimension RH de leur métier. Et de leur apporter et des outils et de les accompagner pour qu'ils ne soient pas tout seuls sur un entretien, de comprendre pourquoi telle ou telle personne en est arrivée là. Alors, je peux me tromper aussi, on est sûr de l'humain, mais déjà, il faut obtenir la confiance des salariés, donc il faut se mettre à un niveau d'égal à égal et pas un niveau de manager et c'est moi qui sais et toi, voilà. Enfin, c'est plutôt ok, moi je suis ton manager, je t'accompagne, moi je suis ta RH, je t'accompagne aussi, on est là pour travailler ensemble, pour travailler bien ensemble. Donc travailler bien, c'est travailler dans la performance mais aussi dans le fait d'être bien soi-même au travail.
J'ai une dernière question pour vous et ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que vous allez faire différemment dans votre prochain job ?
Alors déjà, le choix de mon job, c'est vraiment de faire avec mes qualités à moi. C'est-à-dire de pas choisir un job en fonction que de mes compétences, mais choisir un job là où je sais ce que je peux apporter. Donc c'est choisir là où j'aurai un espace pour donner ce que je peut donner à des managers, justement, où on va me laisser un espace pour créer, pour accompagner, et pas être juste une RH qui va faire des procédures et faire des accords d'entreprise, etc. C'est des compétences, mais voilà, déjà, cette partie-là, où la QVCT, où vraiment le bien-être au travail est important, où même si c'est pas tout rose, parce que toutes les entreprises sont concernées, il n'y a pas de monde de bisounours en entreprise, mais où il y a une vraie prise de conscience et une vraie envie de faire avancer les choses. Donc voilà, après, tous les contextes ne le permettent pas, toutes les entreprises n'ont pas non plus envie. Tout est une question d'équilibre. Donc après, moi, je veux de la transparence, beaucoup de communication. Alors, c'est un peu tarte à la crème, la communication, mais c'est réellement toujours des problèmes de communication et de compréhension, en fait, entre les êtres humains.
Eh bien, écoutez, merci. Je vous souhaite donc de trouver une entreprise où le H a vraiment du sens et vraiment au cœur des préoccupations. Et je pense comme vous que c'est en mettant le H au cœur des préoccupations qu'on obtient le meilleur résultat et la meilleure performance des équipes. Merci beaucoup, Mylène.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus ? Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.